Podcast La Première.
Bonjour, Jacques-Olivier au micro pour un dernier mémo câblé. Dernier rendez-vous en effet aujourd'hui avec Christophe Lejeune, qui nous a raconté l'histoire d'Internet dans son ouvrage « Démocratie 2.0, une histoire politique d'Internet » paru aux éditions du Centre d'Action Laïque. « Démocratie 2.0, c'est l'Internet où les utilisateurs deviennent de plus en plus acteurs. Ce qui peut, au demeurant, profiter aux sociétés privées qui se rétribuent sur la publicité. Car Internet, nous en disions un mot déjà dans l'émission précédente, c'est un enjeu commercial considérable et pourtant, nous allons le voir, le souci de gratuité, de coopération, d'efficacité pragmatique est toujours présent et se pose même en concurrent à des entreprises au but plus lucratif. Concurrent ou plutôt solutions alternatives qui permettent le choix et la liberté, car c'est aussi de cela qu'il s'agit en définitive, la capacité de choisir comment nous utilisons Internet, voire même la possibilité de décider de ne pas s'en servir.
On a vu déjà à plusieurs reprises qu'il y a, encore une fois, un aspect culturel dans Internet qui est celui du logiciel libre. Hein. Mm-hmm. Et on va avoir d'une certaine manière, y compris par rapport à cette problématique des fameux moteurs de recherche que nous avons évoqués, l'apparition encore une fois de cette vision libre, si je puis dire. Certains vont chercher à résoudre le problème à leur manière.
C'est ça. Donc on a parlé d'annuaires, on a parlé de moteurs de recherche, on a vu qu'il y avait plusieurs tentatives au niveau des moteurs de recherche. Et certaines personnes qui utilisent Internet ne sont pas nécessairement tous séduits par les moteurs de recherche et trouvent que les annuaires, ça garde son charme. Mais ils sont à la fois un petit peu embêtés de voir que les quelques annuaires qui existent sont tous des sociétés commerciales. On a cité Yahoo, c'est une société commerciale, qui vivent majoritairement de la publicité. Et donc on va voir une initiative qui, moi, m'a particulièrement intéressé, ou que j'ai étudié d'assez près. On va voir donc, en 1998, une initiative se créer qui propose de construire un annuaire un petit peu comme Yahoo, mais non plus dans un modèle entrepreneurial, dans un modèle commercial, plutôt sur un modèle, sur le modèle qui est celui du logiciel libre. Alors on se rappelle que le logiciel libre a été initié en 1983 par Richard Stallman, selon une logique de ben voilà, je vous propose de concevoir quelque chose ensemble. S'il y a des personnes qui sont preneuses, contactez-moi et on va le faire.
Il faut peut-être faire une petite parenthèse et un minuscule retour en arrière. Le World Wide Web, c'est une découverte et une invention mise dans le domaine public.
Tout à fait.
Oui, mais ça aurait pu être autrement. Ça aurait pu être différent.
Et donc, on voit que même si ça n'apparaît pas nécessairement, et ça n'est pas nécessairement toujours connu, l'Internet va être porté, pas principalement, mais à certains moments, les acteurs de l'histoire d'Internet vont être aussi des acteurs qui s'implique dans le mouvement du logiciel libre, et c'est le cas pour les concepteurs du World Wide Web, comme vous le dites. Donc, je rappelais que en 83, on a Richard Stallman qui lance le mouvement du logiciel libre sous le nom du projet GNU. On a un peu plus tard la naissance du World Wide Web et qui s'affilie en grande partie à ce mouvement pour le logiciel libre. J'ai cité tout à l'heure Google, qui est une entreprise privée, mais qui va beaucoup s'appuyer sur des produits open source et libres, et qui va d'ailleurs contribuer au mouvement du logiciel libre. On en arrive maintenant à une autre initiative, le lancement d'un annuaire qui s'organise comme un collectif concepteur du logiciel libre, et qui va se baptiser GNU, ou par la contraction du nom GNU, GNU, le projet de Richard Stallman, et la fin du mot Yahoo. Et donc, c'est le répertoire à la Yahoo, façon logiciel libre. Alors, On est en 1998. Ce projet est lancé par Bob Truel et Eric Skrenta, qui sont tous les deux des employés de Sun Microsystems, mais qui ne créent pas GNU pour le compte de Sun Microsystems, ils le comptent à titre personnel. Alors, c'est une initiative dont la plupart des gens n'ont jamais entendu parler, hein, le projet GNU, qui va ensuite être rebaptisé Open Directory Project, l'Open Directory Project, ou DEMOS. Mais il faut savoir que les productions de l'Open Directory Project, qu'est-ce que c'est que les productions de l'Open Directory Project ? C'est un annuaire conçu par des personnes comme vous et moi, qui ne sont pas du tout salariés, et qui contribuent, pour certains, une fois pour les trois mois, pour d'autres, plusieurs fois par jour, à concevoir un annuaire. Eh bien, le résultat de ces productions est utilisé par beaucoup d'outils dont certains sont beaucoup plus connus. Et notamment, si vous allez sur le portail de Google et que vous allez dans l'annuaire de Google, eh bien, l'annuaire de Google, qu'est-ce que c'est ? C'est en fait l'annuaire de l'Open Directory Project. Si vous regardez en bas de la page de l'annuaire de Google, vous verrez qu'il est noté très lisiblement, très clairement, que toutes les informations qui sont sur ces pages-là ont été produites par ce collectif organisé à la manière des logiciels libres, qui est le collectif qui lance à cette époque-là, donc en 1998, le projet GNU.
Qui va déboucher sur quelque chose qu'on connaît peut-être mieux aujourd'hui, qui est Mozilla. Ce n'est pas exactement la même filière, mais n'empêche que, je veux dire qu'à la suite de déboires juridico-commerciaux, etc., on va retrouver quand même une espèce de convergence entre le privé et le public à un moment donné qui va déboucher sur ce qu'on appelle Mozilla.
Voilà, il y a une convergence. Il n'y a pas que les acteurs de GNU qui vont œuvrer à Mozilla, mais le Mozilla est quelque part un portail où on va retrouver les personnes qui étaient les acteurs qui ont conçu le navigateur Netscape. Et ce portail va héberger le projet GNU, qui dans un premier temps avait été hébergé, en effet, un petit peu, on se rendait service entre copains, ingénieurs, informaticiens, mais très vite, les besoins de ce collectif vont grandir et ils vont être hébergés par ce projet Mozilla. Et donc, un des noms, puisque j'ai dit qu'au début, c'était lancé en tant que projet GNU, que ça s'était appelé l'Open Directory Project, et j'ai parlé aussi de DEMOS, eh bien, DEMOS, c'est la contraction de Directory Mozilla, DMOZ étant la contraction des deux, donc DEMOS.org. On retrouve le MOS de Mozilla. Mais là, on fait un
bon... Mais il y a l'implication de Netscape aussi.
C'est
cette affaire, mais qui est une société commerciale.
C'est une société commerciale, oui. En fait, à cette époque-là, on va avoir quelque chose qui est connu comme la bataille des navigateurs, hein, puisque un concepteur de système d'exploitation, qui est le système d'exploitation le plus répandu, on peut le citer, c'est Windows, hein, fournit avec son système un navigateur, Internet Explorer, et chez pas mal d'acteurs de la micro-informatique et du logiciel, il y a la conscience que de plus en plus de choses se passent sur Internet et que être le fournisseur du navigateur le plus utilisé recèle des enjeux, notamment financiers, importants. Et donc, il va y avoir une bataille entre plusieurs sociétés commerciales, dont Netscape, dont Microsoft pour Internet Explorer. Netscape ne tiendra pas le coup en tant que société commerciale, mais plutôt que de déposer le bilan et d'abandonner, Netscape va faire quelque chose qui va profiter au mouvement pour le logiciel libre. Ils vont décider que ce qu'ils ont développé, donc le navigateur Netscape, bien, plutôt que de le ranger dans un tiroir et de le passer en perte et profit, ils vont le donner, entre guillemets, à la collectivité. Et donc, c'est à la même époque que le lancement de l'Open Directory Project, en 1998, Netscape va publier le code source, donc les lignes de code informatique qui ont permis de concevoir Netscape. Elle va le publier sous le nom de code Mozilla. Et donc, le premier concurrent, si je puis dire, d'Internet Explorer va devenir quelque chose qui n'est plus une entreprise commerciale. Jusque-là, on avait vu un affrontement des sociétés, des entreprises privées, mais va devenir un acteur collectif, relativement dispersé, mais coordonné, qui est composé de volontaires, bénévoles, qui vont essayer de maintenir un navigateur à partir de là. Alors, ça ne se fera pas sans difficulté, parce que à l'intérieur du code de Mozilla, il y a toute une série de morceaux qui, en fait, avaient été confié à l'entreprise Netscape avec CD sur base de licence. Et donc, le mouvement pour le logiciel libre ne peut pas s'approprier comme ça tous les morceaux dispersés. Et il va y avoir un gros travail de réécriture qui va progressivement permettre de passer du navigateur Netscape devenu Mozilla vers le navigateur que l'on connaît aujourd'hui fort bien, qui est Firefox.
On s'en rend compte au travers de tout ce que vous nous dites, c'est que les intérêts commerciaux augmentent aussi dans cette affaire. Hein. On voit qu'on se livre à des batailles commerciales où toute la puissance financière des uns et des autres est mise en jeu parce qu'on se rend compte qu'il y a un marché. Il ne s'agit plus simplement de vendre des appareils, de vendre quelques logiciels, etc. Finalement, on est devant une sorte de bouleversement économique dont certains ont assez nette perception.
Mais au fur et à mesure que Internet se démocratise, entre guillemets, c'est-à-dire au fur et à mesure qu'il y a de plus en plus de monde connecté sur Internet, toute une série d'acteurs se rendent compte que ça vaut peut-être la peine de placer de la pub sur Internet, ça vaut peut-être la peine de tirer parti du format numérique. Et on va voir se passer en parallèle un mouvement de ce qu'on appelle la convergence numérique, c'est-à-dire qu'on va faire passer par voie numérique toute une série de choses qui n'étaient pas jusque-là numérisées, la musique, les images, les films.
Le multimédia. Maintenant.
Le multimédia. Les entreprises vont progressivement, et quand je dis progressivement, ça veut dire que ce ne sont pas nécessairement les plus grosses entreprises qui investissent en premier. Et si ce ne sont pas les grosses entreprises qui investissent en premier, qu'est-ce qui va se passer? On va voir des petites entreprises essayer de tenter leur chance. Se dire, tiens, le leader mondial de la musique ne tente pas le coup de la musique numérique. Pourquoi est-ce que nous ne créerions pas une société qui va essayer de vendre de la musique sur Internet? Et à la fin des années 90, c'est ce qui va se passer. Il va y avoir une multiplication des petites entreprises qui essayent de tirer parti de ce mouvement de multiplication des ressources sur Internet, le fait qu'il y a un public, puisqu'il y a de plus en plus d'utilisateurs sur Internet, et le fait que certains des grands acteurs du multimédia sont plutôt timides par rapport à ces nouveaux formats. Ils sont timides pourquoi? Parce qu'aussi, ils ne voient pas bien quel est le modèle économique qui rend possible le simple transfert de leur modèle économique sur Internet, puisque une fois qu'on est dans le numérique, il est très facile de copier un fichier. Et ce qui fait la fortune des entreprises du micro-sillon et puis du CD, c'est le fait qu'il y a une certaine difficulté à recopier facilement les choses. Une fois qu'il s'agit de copier un fichier d'un disque à un autre, les choses deviennent beaucoup plus faciles. Et il y a pas mal de résistance de la part des plus grandes entreprises. Donc, ces acteurs minoritaires ou ces nouveaux acteurs, ces acteurs émergents, vont multiplier les initiatives et vont pour certains d'ailleurs faire pas mal d'innovations intéressantes. On est dans la deuxième moitié des années 90, de 1995 à 1999. On voit une multiplication de ce qu'on appelle alors les start-up, ces petites entreprises qui commencent de presque rien. Mythologiquement, c'est toujours des entreprises qui sont fondées par deux étudiants dans leur garage, mais il y a une dimension un peu mythique à ça, et puis qui font très vite de l'argent, ne fût-ce que, par exemple, pour des gens qui s'y connaissent un petit peu en informatique, en concevant simplement des sites Internet pour que des entreprises ou simplement des petits commerces aient leur vitrine sur Internet. Mais donc là, on est face à des talents qui ne sont pas nécessairement beaucoup partagés et qui peuvent être monnayés à bon prix. Et on va voir, d'abord aux États-Unis, mais aussi en Europe, on va voir se multiplier ces startups qui vont d'ailleurs, pour certaines, dégager de bons bénéfices. Mais ces bénéfices et cette ruée vers l'or d'Internet va être d'assez courte durée, puisque en 2000, on va voir l'effondrement du Nasdaq, l'indice boursier des valeurs numériques. On a parlé de l'éclatement de la bulle Internet et énormément de start-up vont fermer boutique. Et donc, ces acteurs qui avaient quelque part défriché ou qui avaient tenté leur chance vont connaître un revers. Et pour beaucoup d'entre eux, ça va être la fin de l'aventure. Et ce n'est pas un hasard si c'est à ce moment-là que les acteurs les plus majoritaires vont commencer à prendre plus au sérieux le marché en question, mais d'une part aussi parce que l'effondrement de l'indice boursier a fait de la place, et aussi parce qu'ils ont pu, pendant ces 4-5 années, tester des choses et avancer une stratégie qui ne soit pas trop risquée. 10 ans après, on se rend compte que les acteurs qui étaient dominants dans le monde du multimédia avant Internet sont encore les mêmes aujourd'hui. Donc on a eu une période transitoire où des nouveaux acteurs ont pu émerger, mais il y a très peu de ces nouveaux acteurs qui ont réussi à s'imposer. Certains sont toujours là, mais les acteurs dominants, c'est toujours ceux d'avant, qui ont été timides dans un premier temps, et puis qui ont, une fois qu'ils ont pu voir quelle était la stratégie adoptée, qui ont pu s'imposer. C'est d'ailleurs plus ou moins à cette époque-là aussi, donc en 2000, que une entreprise connue, en tout cas connue dans le monde des technologies, Sun Microsystems, va faire la même chose que ce qu'avait fait Netscape, c'est-à-dire ce qu'on appelle libérer un logiciel. Sun Microsystems avait un logiciel maison qui s'appelle StarOffice, qui est en fait une suite bureautique. Qu'est-ce que c'est qu'une suite bureautique ? C'est une série de logiciels qui comprennent classiquement un traitement de texte, un logiciel de présentation, un logiciel qui permet de faire des calculs, donc un tableur, ce genre de logiciel, d'un usage très courant aujourd'hui sur les micro-ordinateurs. Alors, ils avaient leur propre...
Et qu'on trouve en général sur son ordinateur, hein, quand on en achète un,
alors, quand
qui
ne
vient pas forcément de la même firme.
Voilà. Souvent, quand on achète un ordinateur, on a une version souvent réduite ou qui marche un certain temps, et on est invité à investir dans une licence qui permet d'acquérir la suite bureautique en tout ou partie. Le leader, je pense que ce n'est pas de le faire de la pub, le leader c'est Microsoft avec sa suite Microsoft Office.
Et donc voilà Sun qui débarque sur le territoire aussi.
Alors, était déjà présent via StarOffice, mais StarOffice était réservé au système de type plutôt Unix qui était utilisé par les clients de Sun qui achetaient le hardware et à qui on fournissait le software. Donc, ils achetaient le matériel, on leur fournissait les logiciels qui allaient avec. Et Sun Microsystems, à ce moment où ils se rendent compte que faire de l'argent sur Internet, ce n'est pas si évident que ça, effondrement de l'indice Nasdaq, va libérer StarOffice, donc le confier à la communauté, de la même manière que Netscape avait donné son code source sous le nom Mozilla, et StarOffice, ou en tout cas le code source de StarOffice, va être libéré sous le nom OpenOffice, qui est aussi une suite de logiciels dont on commence quand même à entendre de plus en plus parler, et qui va en une dizaine d'années, devenir un équivalent, une alternative à la suite bureautique déjà bien installée à l'époque, qui est celle de Microsoft.
Christophe Lejeune, je vous le rappelle, nous raconte l'histoire d'Internet.
Il y a un autre mouvement qui émerge aussi, hein. On a peut-être parlé jusqu'à maintenant, au fond, de l'ouverture vers le grand public. Et puis, je dirais qu'il y a l'appropriation, alors, de cet Internet par le public. On n'est plus strictement consommateur d'Internet. Je dirais, plus on le fréquente, plus on a envie d'en devenir un acteur, en quelque sorte. Hein. Et ça aussi, ça a une histoire.
Tout à fait, oui. Dans un premier temps, les personnes qui pouvaient diffuser de l'information étaient ces acteurs privilégiés, on a dit élitistes à un moment donné, qui avaient la possibilité d'avoir accès à un serveur, d'y déposer une page ou qui avaient accès à un forum de discussion. Les premiers utilisateurs d'Internet n'ont pas toujours tous été heureux parce qu'ils s'attendaient à un grand monde d'interactivité. Et ils se sont rendus compte dans un premier temps, hein, quand vous débarquiez au début sur le World Wide Web, quand vous pouviez juste passer par un annuaire et surfer, vous trouviez peut-être toute une série de ressources plus ou moins intéressantes, mais la possibilité d'agir et de ne pas être passif restait limitée. Et lorsqu'on a évoqué précédemment l'aventure de l'Open Directory Project, mais il s'agit en fait d'une aventure qui peut sembler être juste une alternative à un annuaire qui existait déjà, mais elle enclenche un mouvement qui est en fait un mouvement très important, c'est qu'elle va utiliser le modèle de logiciel libre dans un domaine qui est ouvert à un beaucoup plus grand public. Lorsque je dis que l'Open Directory Project a ouvert un annuaire de site Internet et qu'il vous propose, à vous comme à moi, de participer, on est bien en train de dire qu'on propose à des utilisateurs de devenir des acteurs et que pour être acteur, il ne faut pas être un programmeur, un physicien ou quelqu'un qui a une compétence technique très élevée. Quelque part, l'Open Directory Project préfigure un mouvement où les personnes qui se connectent à Internet sont autant acteurs qu'elles ne sont consommatrices ou spectatrices. Elles préfigurent un mouvement qu'on a baptisé à tort ou à raison le Web 2.0. Pourquoi je dis à tort ou à raison, c'est que Web 2.0, ça donne un peu l'impression qu'on a pris le World Wide Web de Tim Berners-Lee et qu'on en a sorti une version 2. Or, le Web 2.0, ce n'est pas une innovation technologique. Le Web 2.0,
c'est une autre vision des choses.
C'est une vision des choses qui met l'accent sur l'activité, sur la contribution de monsieur et madame tout le monde. Au fond, le programme, si je puis parler ainsi, du Web 2.0, c'est la transition d'un Internet conçu sur le modèle de la télévision, où des chaînes de télévision institutionnelles proposent des programmes qui peuvent être consultés par des spectateurs relativement passifs, à un modèle beaucoup plus polyphonique, où les acteurs conçoivent entre eux le contenu qu'ils s'échangent et finalement, ce qui est proposé, ce n'est plus guère qu'une infrastructure pour cet échange d'informations. Les exemples les plus connus, les plus souvent cités du Web 2.0, c'est Wikipédia et Facebook. Et on en arrive dans notre histoire d'Internet à la date du lancement de Wikipédia. On était en 2000, on arrive en 2001, où Jamie Wells et Larry Sanger ajoute un wiki à un projet qu'ils avaient déjà, mais qui ne décollait pas vraiment.
Faut dire ce que c'est un wiki, hein, d'abord.
Oui, pardon. Donc, le wiki, c'est un programme, enfin, une façon de concevoir un site Internet qui permet à tout un chacun d'introduire des modifications, d'introduire des nouvelles pages ou de modifier des pages qui existent. C'est quelque chose qui existe depuis 1995. Hein, donc, ça fait déjà un moment que ça existe, au moment où il va être vraiment mis à profit. Alors, évidemment, ça invite à plus d'activité sur le web. Depuis le milieu des années 90, on voit fleurir ce qu'on appelle les homepages, donc les pages conçues par les internautes, les utilisateurs d'Internet.
Oui, qui ont débouché sur les blogs, etc.
Exactement, exactement. Cette invention technique, qui n'est pas révolutionnaire en soi, le wiki, elle va se propager, faire son petit bonhomme de chemin entre 1995 et 2001. Et en 2001, va se produire quelque chose qui est intéressant pour notre propos. On a la rencontre entre un philosophe, Larry Sanger, et un entrepreneur du type de ceux qui ont lancé les startups, mais qui continuent à travailler, Jamie Wells, qui fait toutes sortes de choses qui fonctionnent bien sur Internet, dont notamment proposer à la vente des contenus pour adultes. Hein, c'est quelque chose qui marche bien, qui marchait bien au début de l'Internet, qui marche toujours bien aujourd'hui. Et ils ont l'idée ensemble de créer une encyclopédie en ligne. Sur un modèle qui, au début, n'est pas du tout un modèle révolutionnaire. Hein, il s'agit bien d'un site Internet qui n'est pas un site Internet où chacun peut poster ce qu'il veut. Cette encyclopédie s'appelle Nupédia. Il s'agit bien de confier à des spécialistes la rédaction d'une série de notices. Alors, dans l'histoire de Nupédia, il va se produire cet événement qui, au début, est un événement pas très important. Au site de Nupédia va être ajouté un wiki de manière à permettre aux personnes qui visitent Nupédia de faire des suggestions sur les notices qui manquent à l'encyclopédie, à cette encyclopédie Nupédia. Et à l'étonnement de Jimmy Wales et de Larry Sanger, qui disent on ne s'attendait pas à un tel succès, il va y avoir énormément de contributions à Nupédia, qui va être rapidement rebaptisé Wikipédia. Et donc, en 2001, on voit, c'est peut-être excessif de dire un tournant, mais on voit qu'il se passe quelque chose quand même d'important dans cette transformation d'un Internet diffusion vers des spectateurs qui se transforme progressivement en Internet participatif, puisque le modèle de Wikipédia est le modèle par excellence où une société, puisqu'à l'origine on est face à une société commerciale, qui va rapidement céder la place à une entreprise sans but lucratif, mais à cette époque-là, une société fournit essentiellement une infrastructure et le contenu est fourni par les utilisateurs de cette infrastructure qui, en l'occurrence, sont des personnes qui surfent sur Internet et qui vont proposer leurs contributions sur des sujets qu'ils connaissent bien, qui les passionnent, etc.
Oui, et dont des études très sérieuses ont montré qu'elle n'est pas plus mauvaise, si je puis dire, qu'une encyclopédie commerciale bien établie. Hein.
Tout à fait. Vu que Wikipédia est conçue par monsieur et madame tout le monde, par des utilisateurs d'Internet, elle va être parfois critiquée comme une source d'informations non fiables. Alors, on retrouve en fait nos deux factions. Hein. Les optimistes vont dire c'est fabuleux parce que c'est de l'information qui est fournie de manière libre sur Internet, selon une licence qui permet de l'utiliser comme on le souhaite, qui est fournie par le collectif. On est dans un mode très enjoué, très utopiste. Et puis en face de ça, des personnes beaucoup plus sceptiques qui disent bah oui, mais
n'importe qui peut écrire quelque chose, donc on peut écrire n'importe quoi.
Exactement. Voilà. Vous avez bien résumé les choses. Ces débats vont perdurer. Ils sont d'ailleurs toujours là aujourd'hui. Et certaines personnes vont essayer de faire la part des choses. Et une recherche qui a été publiée dans la revue prestigieuse Nature, a fait état, a comparé le nombre d'erreurs qu'on pouvait trouver dans une encyclopédie classique reconnue, l'encyclopédie Britannica, et dans Wikipédia, en prenant un échantillon d'articles.
Oui, mais il faut dire que Britannica, ce sont en principe les plus grands experts d'une question qui rédigent les articles.
Exactement, des universitaires, des spécialistes, des experts. Et on a confronté cette production experte à des articles de Wikipédia. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que les résultats de cette enquête sont eux-mêmes interprétés de manière différente par les optimistes et par les critiques. En fait, les erreurs sont grosso modo du même niveau. C'est un score de 4 contre 3, 4 pour Wikipédia et 3 pour Britannica. Donc, on retrouve à peine plus d'erreurs dans Wikipédia que dans Britannica. Ce qui a fait dire aux personnes qui défendent Wikipédia, notre production n'est pas régulée par des instances institutionnelles, académiques. C'est juste le contrôle de chacun par tous, le fait que vous qui lisez une rubrique Wikipédia, vous pouvez l'améliorer, la modifier si vous y décelez une erreur ou une coquille. Et donc, les tenants, les enthousiastes à propos de Wikipédia vont dire c'est pas plus mauvais que Britannica, c'est la preuve que notre système fonctionne bien. Les critiques, ils sont moins nombreux à citer cette enquête, puisqu'elle est quand même en train de dire qu'il y a quand même pas mal d'erreurs dans Britannica.
Oui, c'est surtout ça que ça montre aussi.
Ça montre ça aussi. Mais quand un critique reprend ou répond à cet argument-là, il dit, vous savez, le nombre d'erreurs, il est du même ordre, et il est même un peu en faveur de Britannica. Évidemment, les critiques le citent assez peu, puisque c'est admettre qu'il y a des erreurs, y compris dans ces documents qui demandent un autre travail de préparation, la préparation de la sortie ou de la révision d'une encyclopédie, c'est un gros travail. Un des atouts de Wikipédia aussi, par rapport à ce mode institutionnalisé, c'est d'être tout le temps mis à jour.
Elle est en refabrication permanente.
Permanent, tout à fait. Ce que ça montre, donc, c'est d'abord qu'on est en train de passer à ce mode de fabrication de l'information qui n'est plus unidirectionnel, mais qui est fait par le plus grand nombre. Et puis, ça montre aussi quelque chose qui n'était pas du tout gagné d'avance, c'est que sans utiliser de régulation institutionnelle, de système de validation par un expert, on peut produire quelque chose d'une certaine qualité. Et que l'on soit pour ou contre Wikipédia, fort est de constater qu'on est face à une entreprise, pas une entreprise ou sans entreprise commerciale, à un projet qui fonctionne. Alors, même si on est contre, on ne peut pas nier que sur Wikipédia, on n'a pas que de la publicité ou que des pages qui ont été vandalisées. Or, ce n'était pas du tout donné d'avance. L'idée d'ouvrir des pages qui pouvaient être modifiées par tout le monde, et donc qui pouvait être aussi la cible de personnes qui voudraient placer de la pub ou placer de la contre-information, on aurait très bien pu se retrouver face à quelque chose qui était tellement chaotique qu'il n'aurait pas du tout fonctionné. Ici, ce qu'on a vu, c'est que avec toute une série de régulations et l'organisation du contrôle des Wikipédia entre eux s'est complexifiée à un niveau... Enfin, il faudrait presque consacrer plusieurs émissions rien qu'à Wikipédia pour arriver à la décrire finement. J'ai quelques collègues qui ont travaillé là-dessus et j'y me suis moi-même un petit peu intéressé. Il y a eu de vraies innovations successives et qui continuent presque quotidiennement pour arriver à construire un modèle qui reste un modèle très ouvert au niveau de l'entrée d'informations, qui permette en effet à quelqu'un qui arrive aujourd'hui sur Wikipédia et qui a envie de créer une nouvelle notice ou de compléter une notice existante, il n'y a pas de frein à l'entrée, ce qui est une vraie force mais qui crée une vraie difficulté, puisque si vous pouvez rentrer de nouvelles informations, vous pouvez aussi rentrer des contre-vérités. Eh bien, en gardant cette ouverture-là et en ayant toute une régulation derrière relativement sophistiquée, ils ont réussi à faire un système qui fonctionne, c'est-à-dire qui ne débouche pas directement sur le chaos. Alors, ça veut dire que ça produit quelque chose de fonctionnel, ça ne veut pas dire que ça produit quelque chose de parfait, hein, on l'a vu. D'ailleurs, Britannica n'est pas plus parfaite. Mais ce qui est intéressant par rapport à la question de la validité des informations sur Wikipédia, c'est de se rendre compte que les erreurs sont inégalement réparties. Il y a des pages de Wikipédia qui sont de très grande qualité et d'autres dont on peut franchement se méfier. Ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve sur Wikipédia le même phénomène qu'on avait dans la comparaison, par exemple, entre Usenet et les annuaires, qui était de se dire, mais tiens, qu'est-ce qui intéresse les gens qui font Wikipédia? Vous vous intéressez aux nouvelles technologies? Vous vous intéressez à l'informatique, à l'électronique, ou peut-être à l'histoire d'Internet? Il y a de fortes chances que vous trouviez sur Wikipédia des pages fort bien documentées, très complètes, et qui contiennent très peu d'erreurs. Pourquoi ? Parce que beaucoup de Wikipédiens s'intéressent à la question. Et donc, si à un moment donné, une erreur devait apparaître, ou une imprécision, elle serait très vite corrigée, parce que ces pages-là sont lues plusieurs dizaines de fois par jour par des personnes qui sont elles-mêmes expertes sur le domaine, et qui donc sont en mesure de détecter très très vite qu'il y a une imprécision, une erreur. Et d'ailleurs, ce n'est pas nécessairement une question de sabotage ou de désinformation. Ça peut être simplement, à un moment donné, un étudiant qui a mal entendu une date à un cours et qui l'a retranscrit. Mais il va être très vite suivi par quelqu'un qui le corrige. Sur d'autres sujets qui sont beaucoup plus marginales par rapport aux préoccupations des Wikipédiens et des personnes qui surfent sur Internet, eh bien, on va avoir beaucoup moins de contributeurs et donc un risque qu'il y ait des imprécisions, qui est plus grand. Si vous vous intéressez à la poésie orientale du XIVe siècle, ben, il y a des chances qu'il y ait moins de personnes qui passent sur les pages qui sont consacrées à ce sujet-là. Et donc, si à un moment donné, quelqu'un introduit des informations qui sont erronées, ces informations pourraient bien perdurer. Alors, c'est gênant, mais si on réfléchit à ce qu'est Wikipédia, ça ne l'est qu'en partie. Quand on va sur Wikipédia, il faut savoir où on va. Et quand je le dis ici, c'est aussi peut-être une invitation aux parents, aux enseignants, qui parfois vont dire à leurs enfants ou à leurs étudiants « N'utilisez pas Wikipédia ». personnellement, ce n'est pas quelque chose que je partage, j'aurais tendance à dire, utilisez Wikipédia, mais en sachant ce que vous utilisez. Et en sachant que la page qui va être dédiée à la biographie d'Alan Turing risque d'être mieux documentée sur Wikipédia qu'une page dédiée à un poète oriental du XIVe siècle.
Ça, c'est pas sûr. Encore un mot sur ce qu'on appelle donc aujourd'hui les fameux réseaux sociaux, hein, parce que je dirais que c'est ce qui est à la mode.
Tout à fait. Donc les réseaux sociaux, ils s'inscrivent dans cette tendance Web 2.0, le plus connu aujourd'hui, qui s'adresse surtout à des utilisateurs, j'ai envie de dire domestiques, c'est Facebook. Donc Facebook, qu'est-ce que c'est ? Au départ, c'est une application lancée par Mark Zuckerberg, dont on connaît bien l'histoire,
oui.
Étudiant à Harvard, qui propose finalement au début un trombinoscope pour son école, trombinoscope qui va être généralisé à d'autres universités pour être finalement ouvert en 2006 à tout le monde. Alors Facebook connaît beaucoup de critiques, cela dit, dans le processus de démocratisation de l'usage d'Internet, c'est une des applications qui apparaît à un moment donné intéressant, puisqu'on va voir que là où on avait commencé au départ avec d'abord des acteurs institutionnels, des chercheurs, puis on a eu des joueurs, principalement masculins, trentenaires, américains, et où on a progressivement ouvert la base de recrutement des utilisateurs d'Internet, bah Facebook s'inscrit dans ce mouvement-là. Et on va voir aujourd'hui sur Facebook des cyberpapis, des cybermamies, comme des jeunes adolescents.
C'est le village mondial, hein, c'est McLuhan. Hein,
voilà, donc c'est...
Mais en même temps, je crois que la métaphore du village, vous allez la retenir, parce que d'une certaine manière, c'est le village dont tout le monde se connaît, mais en même temps, tout le monde se surveille.
Oui, alors
C'est l'ambivalence du système. Hein.
Oui, je pense, si je me souviens bien, que c'est Vinton Cerf. Alors Vinton Cerf, il a été actif à plusieurs moments dans l'histoire d'Internet. Je ne l'ai pas nécessairement cité à chaque fois qu'il a joué un rôle, mais il a notamment été actif dans la définition du protocole d'Internet, le TCP/IP. Et aujourd'hui, il est un expert qui siège d'ailleurs dans plusieurs conseils d'administration, dont celui de Google, et qui dit, mais finalement, beaucoup de gens critiquent Facebook, mais Facebook, c'est le village mondial. Et il prolonge là, comme vous le faites remarquer, la métaphore de McLuhan. Alors, ce qui est intéressant dans le fait de prolonger cette métaphore et dans l'argument de Vinton Cerf, qui est de dire, mais c'est pas inquiétant, un village, ça n'inquiète personne. Et c'est vrai que quand on pense à un village, si on pense à un village dans les Ardennes, par exemple, pour certains d'entre nous, c'est un endroit où on va aller passer un week-end, c'est un endroit de détente, c'est pas quelque chose de très inquiétant par rapport au Big Brother d'Internet. Mais cela dit, c'est bien une remarque de citadin habitué à l'informatique que de dire « avoir un village mondial, ça n'est pas inquiétant ». Qu'est-ce que c'est qu'un village ? C'est un endroit où tout le monde sait tout sur ses voisins. Et quiconque est resté quelque temps dans un village, qu'il soit en Ardennes ou ailleurs d'ailleurs, c'est que, en effet, ça a une réalité. Dans un village, ou même dans une petite ville, les choses se savent très vite. Lorsque on généralise ces structures-là à une structure mondiale, comme celle de Facebook, eh bien, la dimension non inquiétante s'affaiblit un petit peu. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faut être paranoïaque par rapport à Facebook. Ce que je suis en train de dire ici, c'est que, de nouveau, le propos de Vinton Cerf ne regarde qu'un des côtés de la réalité. Et il me semble que, pour Facebook comme pour Wikipédia, on peut en faire le meilleur comme le pire, simplement c'est la façon dont on va s'approprier l'outil. Et là aussi, ça vaut peut-être la peine d'échanger, de discuter entre collègues, entre amis et en famille sur la façon optimale d'utiliser ces outils-là pour essayer d'en faire le meilleur et pas le pire.
Alors pour terminer, je voudrais quand même reprendre une petite citation que j'ai découpée dans un journal de papier, donc un vrai bon vieux journal, et qui nous dit ceci. Donc ce journal, nous dit le correspondant du courrier des lecteurs du journal, donc le journal en question fait partie de notre famille depuis 4 générations. Beaucoup de choses ont changé sur les 60 dernières années, par exemple le vocabulaire. Pour nous, les vieux, un clavier, c'est pour le piano. Le serveur, c'est le garçon de café. Un virus, c'est une mauvaise grippe. La souris, c'est un petit rongeur. Le programme, c'est pour la TV. Aujourd'hui, presque tous les renseignements dans quasi tous les domaines vous renvoient à des courriels ou à Internet. Pense-t-on alors aux personnes qui n'y ont pas accès par manque de finances, de formation ou d'aide? Jadis, les illettrés avaient recours à un scribe ou à un écrivain public. Va-t-il en être de même pour nous, ignorants des nouvelles techniques? Est-il normal de payer plus cher si on n'utilise pas ces sacrées machines pour les moindres opérations commerciales? Ayez pitié de nous. Ce que je remarque tout de même, c'est que dans cet avis, il n'est pas question de la liberté d'ignorer Internet.
Oui, c'est assez juste. Dans beaucoup de secteurs, on introduit les nouvelles technologies comme des technologies qui vont faciliter la vie ou donner une possibilité supplémentaire. Et à titre personnel, je suis plutôt favorable à multiplier les possibilités. Le problème, c'est que souvent, l'introduction des nouvelles technologies se présente comme une possibilité supplémentaire pendant simplement une phase de transition. Et puis qu'au bout d'un moment, il devient presque obligatoire de passer par l'Internet. On entend parler régulièrement de ce genre de choses, qu'il s'agisse de compléter une déclaration d'impôt, qu'il s'agisse d'acheter un billet d'avion ou de train. Progressivement, après avoir proposé cette application-là comme une application supplémentaire, ça devient la seule façon. Et là, je pense qu'il y a une vigilance à avoir en tant qu'usager et consommateur, à être bien attentif à ce qu'on ne limite pas notre liberté à être parfois connecté, être parfois déconnecté, à pouvoir répondre au téléphone quand on le souhaite et pas être obligé de répondre au téléphone ou de répondre aux mails ou de passer par des applications numériques sans cesse plus intrusives.
Vous pouvez retrouver cette histoire d'Internet dans l'ouvrage publié par notre invité Christophe Lejeune, Démocratie 2.0, une histoire politique d'Internet, aux éditions du Centre d'Action Laïque. Cette émission a été réalisée par Marie-Noëlle Dumoulin, André Remy. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.
Retrouvez Mémo le samedi de 17h15 à 18h.
La première.